Radio Libertaire 89.4, c'est la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes sur Jeudi Noir, donc Jeudi Noir, Michel José aujourd'hui pour une littéraire. On va vous présenter une bonne dizaine de bouquins. On va commencer tout de suite parce qu'on a pris un peu de retard déjà. Alors je vais vous présenter un bouquin de Becky Chambers. J'avais déjà parlé de Becky Chambers dans une précédente émission. Vraiment, j'aime bien ce qu'elle fait. Donc, c'est une autrice états-unienne. Là, c'est une novella. Alors, novella, parce que c'est un roman très, très court et c'est plus qu'une nouvelle. Je crois que c'est ça la définition. Donc, publiée qu'elle a sorti en 2021. Et ça s'appelle « Un psaume pour les recyclés sauvages ». Donc, dans « Un psaume pour les recyclés sauvages », on a affaire à une société dans le futur où les robots, un jour, ont accédé à la conscience. Et ils ont décidé de partir vivre dans la forêt d'un commun accord avec les êtres humains. Ils se sont dit, bon, vous êtes conscient, vous avez le droit de décider de votre propre destin. Donc voilà, ils se sont dit, bon, on va dans la forêt. Et donc les années passent, les siècles passent, et les robots deviennent un petit peu oubliés, un peu légendaires. Et les humains continuent leur vie de leur côté, tranquillou. Et nous, on suit Frère, comment s'appelle-t-il ? Frère Dex, donc c'est frère et sœur Dex, Frère, donc pronom Yel, qui est moine, qui décide de changer de branche, de devenir moine du thé. Alors moine du thé, c'est pas très religieux en fait. Frère Dex se balade avec un vélo, avec une petite roulotte derrière. Et quand les gens ont envie d'aller se plaindre de leur vie, ils viennent et ils boivent du thé et ils racontent leur vie. Voilà. Et lui, il est là pour écouter et leur faire du thé. Voilà, tout simplement. Donc il se balade un petit peu partout et finit par tomber évidemment sur un robot. Et c'est là que ça devient intéressant. En quelques dizaines de pages, on se retrouve avec plein de questions assez essentielles sur de quoi ont vraiment besoin les humains dans une société où tout est accessible. Des histoires assez classiques de la SF sur la conscience, etc., etc. Alors c'est vraiment, comme toujours chez Becky Chambers, raconté de manière très légère, très, très subtile, très précise aussi. Et très très agréable. Donc j'en dis pas plus parce que c'est très court et je vous conseille Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers.
Oh, Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour une littéraire avant Noël. Vous venez d'entendre le groupe Litige et un morceau Samouraï, un groupe de Lyon, c'est un petit morceau de 2020. Voilà. Et juste avant, vous aviez entendu le groupe Plastics, un groupe japonais, un morceau qui s'intitule Robot et qui datait de 79. Voilà donc, José vous avez présenté Becky Chambers, moi je vais vous présenter Eiji Yoshikawa, un auteur de best-seller, c'est une grosse star au Japon, il est mort dans les années 60, entouré d'honneurs et tout ça, donc c'est pas vraiment de l'underground, c'est plutôt du mainstream, et c'est La pierre et le sabre, c'est un roman, alors c'est un fort roman, hein, il fait 800 pages, il y en a un deuxième qui suit, et ça retrace la vie romancée d'un samouraï célèbre, qui s'appelait Musashi. Et donc, c'est assez curieux parce que, si vous voulez, vous avez. Ça a été écrit dans les années 30, donc c'est pas. On pourrait imaginer le truc de samouraï, il se bat tout le temps, il sort son sabre en permanence. Et en fait, c'est un peu plus que ça, parce qu'on voit tous les côtés. Comment va-t-il progresser aussi spirituellement ? Apparemment, il progresse dans son art en faisant de la poterie. À un moment, il marche sur un clou, il se blesse, et son pied est infecté, et il voit ça comme il a perdu contre le clou. Et donc, c'est un peu cinglé, je vous avouerai, quand on le lit comme ça, assez rigolo. Et puis, il y a aussi tout le côté où on voit Musashi s'asseoir sur une espèce de vision qu'on pourrait avoir romancée du Bushido, de la voix du guerrier. Où, par exemple, à un moment, il défie en duel un seigneur qui se trouve avoir genre 8 ans. Et donc le seigneur l'attend pour se battre avec lui, mais le seigneur l'attend pour se battre avec lui dans le Japon médiéval, ça veut dire qu'en fait il attend avec une centaine de guerriers qui sont là pour étriper Musashi quand il se présentera. Et Musashi tend une embuscade et il cloue littéralement un enfant à un arbre avant de s'enfuir. Donc c'est une ordure. Là-dessus, enfin, ça ne veut pas dire que le Seigneur va aller beaucoup mieux dans ce monde-là. Hein. Et il n'y a que des espèces de trucs comme ça qui en font un roman finalement assez curieux et qui dépeignent un personnage qui n'est pas forcément sympathique. Un de ses grands coups, si c'est d'arriver en retard. Enfin, il défie en duel un samouraï, et il arrive avec 3 heures de retard, le type est excédé. Et il perd tous ses moyens, il est déconcentré, et la Musashi le tue avec... un bout d'arbre, un truc qui passe. Donc voilà. donc ça s'étale sur des pages et des pages. C'est curieux, mais c'est pas forcément désagréable. À vous de voir si vous avez envie de dire ce genre de truc. All right, you primitive screwheads, listen up. See this? This is my boomstick.
Dead.
toujours Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4. On vient d'écouter Anarch State avec Santa Claus Was a Nazi. Alors vous avez déjà passé plein de fois John Wayne Was a Nazi de MDC. Hitler Was a Nazi des Beach Boys. Et ben là c'est la même chanson mais avec une autre version. Et là c'est le Père Noël qui est un nazi. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler d'un bouquin de Katharine Burdekin qui s'appelle Svastika Night. Donc Svastika Night, a priori ça va parler de nazi. On en parle souvent hein, quand même sur Jeudi Noir de nazis. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait. En fait, ça n'a pas été vraiment publié sous le nom de Katharine Burdekin. Ça a été publié en 1937, ce bouquin, sous le nom de Murray Constantine. Ou Constantine. Voilà. Et c'est dans les années 80 qu'une chercheuse a trouvé que en fait, la véritable autrice s'appelait Katharine Burdekin. Pardon. Voilà. Donc c'est une autrice anglaise. C'était une autrice anglaise qui a pondu un bouquin assez étonnant. Qui est lié au 1984 d'Orwell, dont on parle très souvent également ici, sauf que ça a été écrit 10 ans avant 1984. Alors ça se passe en l'an 700 après Hitler, à peu près. Voilà. Donc elle a imaginé en 1937 que bah, les nazis remportaient toutes les victoires. La guerre mondiale n'était pas encore déclarée openly, on va dire. Et puis elle imagine aussi que le Japon est devenu tout puissant, donc le monde est partagé en deux, Allemagne, Japon. Donc comme dans le bouquin de Philippe K. Dick, Le Maître du Haut Château. Après, la comparaison s'arrête là avec Philippe K. Dick. En revanche, il y a beaucoup, beaucoup de points communs avec 1984. Donc on se retrouve dans un monde avec un passé qui est effacé, où les Allemands sont considérés comme civilisés. Alors, un nazi, ça veut dire un monsieur, quoi. Monsieur, ça veut dire... Et nazi, c'est équivalent. Voilà, qui se sont battus contre les peuples barbares. Donc, ils ont éliminé la capacité de lire, par exemple. Très peu de gens savent lire ou écrire. Le monde est redevenu plutôt rural. Et surtout, bah, c'est un bouquin très féministe également, puisque là, on a des femmes qui sont complètement déshumanisées. Donc, les Juifs ont disparu, évidemment pas naturellement, hein, on est dans le monde des nazis. Et bah, les femmes ont repris un petit peu ce créneau-là, c'est un peu brutal. Mais en tout cas, sont complètement déshumanisées et ont un rôle d'animaux, que ce soit du point de vue des nazis, du point de vue des quelques chrétiens qui sont encore là et qui sont persécutés par les nazis. Les bébés mâles sont élevés que par des hommes. Les hommes, entre eux, se fréquentent. L'homosexualité est tout à fait normale entre nazis, puisque les femmes ne sont que des bêtes. Hein. Donc elles sont juste là pour la reproduction. C'est un bouquin qui est très fin politiquement. Ils disent par exemple qu'ils s'occuperont de la question des femmes plus tard, après la Révolution, pour les gens qui veulent combattre les nazis, la résistance qui est là aussi. Voilà, donc ça rappelle des choses un peu actuelles. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Après, il y a plein de choses assez étonnantes. Hein. L'un des seuls bouquins qu'on peut lire, c'est la Bible Hitler. Voilà. Donc tout est complètement mythifié. Hitler est devenu un dieu. Et surtout, ce qui rapproche le plus de 1984, c'est justement le pouvoir de la rationalité. L'autrice insiste beaucoup là-dessus. S'ils veulent faire tomber les nazis, ça sera grâce à la rationalité, grâce à la vérité, et au fait qu'ils vont faire éclater justement tous les mensonges nazis, et que l'Empire nazi a beau tenir plusieurs siècles, il ne peut pas tenir si la vérité éclate. Voilà. Bouquin que je vous recommande, donc de Katharine Burdekin, je ne sais pas comment ça se prononce, Burdekin, Svastika Night.
De sombres histoires et ça que je préfère un repère au milieu du monde sans rousseur. Les sombres, c'est une odyssée sans espoir, une balade dans l'enfer. Je peux
d'imaginer le pire. Les autres sont là pour croiser les doigts. Moi je verse des larmes sur l'avenir en
Vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Vous venez d'entendre Betty Cyclope, Sombres Histoires, un morceau belge de 2011, choisi par José, parce que je vais vous parler des chroniques de Jean-Patrick Manchette, et que Jean-Patrick Manchette s'intéresse souvent de sombres histoires, à des romans noirs, à des polars. Et je vous avais déjà parlé d'un de ses romans, j'aime à peu près tout ce qu'il a écrit en matière de romans noirs. C'est un des initiateurs de ce qu'on a pu appeler le néo-polar en France au début des années 70, avec quelques autres. Ils ont en quelque sorte relancé une tradition que Manchette juge a priori américaine, et dans les chroniques qu'il a pu écrire dans différents journaux, il fait en quelque sorte la théorie du polar. Alors pas que, il y a aussi tout un tas de chroniques d'auteurs et d'autrices, parce qu'il parle aussi beaucoup d'autrices contemporains qui écrivent au moment où lui écrit les chroniques, donc plutôt dans les 70, années 70, années 80. Et donc ça c'est pas mal, même parce qu'il n'y a pas que des auteurs et des autrices oubliés, il y en a beaucoup qui restent lus et sur lesquels il a toujours un point de vue qui est intéressant. Et ensuite, moi aussi ce qui m'a beaucoup plu évidemment, c'est toute la théorisation qu'il va faire au sujet du polar, qu'il va essayer de comprendre de façon un peu, comment dire, un peu marxiste, en essayant d'intégrer, ou Lukács, un peu à la Lukács, ce marxiste hongrois, d'intégrer cette forme littéraire qu'est le polar à un moment de l'histoire politique et économique des États-Unis. Et il va essayer de faire le lien entre cette histoire, ce genre romanesque, et le style dans lequel il est écrit, en particulier le behaviorisme. Et l'idée de Manchette, c'est que le polar, c'est le roman du monde où la contre-révolution l'a emporté, où d'une certaine manière le mal règne partout, où les bonnes intentions n'ont plus aucune importance, parce que tout ce qu'on peut faire c'est ne pas essayer d'être un salaud, mais nos sentiments n'ont plus de valeur d'une certaine manière, dans un monde où tout est mauvais. Et le privé, qui justement n'est pas un flic, et ne doit pas être un flic, parce que le flic est au service du mal, c'est connu. C'est pas sur cette antenne que je vais vous l'apprendre. Et donc le privé justement est là pour, et c'est en quelque sorte, c'est la conscience morale d'un monde sans conscience. Et c'est pour ça que la conscience du privé n'est jamais décrite aussi, et que chez Dashiell Hammett, chez Chandler, il y a ce style qu'on appelait behavioriste, c'est-à-dire qu'il va ne décrire que finalement ce que l'on peut apercevoir, et jamais l'intériorité du personnage n'est dévoilée dans la narration, elle se dévoile uniquement dans les actes. Par exemple, dans un de ses romans noirs, à un moment, le méchant qui ne sera pas arrêté dit au détective privé au sujet des saloperies qu'il a pu faire, mais tout le monde s'en fout. Et là, le privé, là-bas, il dit non, pas moi. Il se casse. Avant d'aller se ruiner la gueule à coups d'alcool, parce qu'il ne supporte pas le monde dans lequel il vit. Et non pas parce qu'il a un estomac solide. C'est une vision qui est peut-être discutable, parce qu'on pourrait dire qu'on vit encore dans un monde de salauds et que le polar n'a pas ressurgi. Mais un monde dans lequel la contre-révolution l'a emporté, sans que forcément il y ait de polar non plus. Mais ça reste une interprétation intéressante, je trouve, et c'est écrit dans un style qui parfois est un peu vieilli, qui parfois est un petit peu facile. On voit que c'était chronique qu'il a écrite pour des journaux, mais c'est souvent enlevé, c'est souvent drôle. Ça suppose une certaine culture de cette époque, mais bon, voilà. Si vous aimez le polar, en tout cas, et que vous avez envie d'un point de vue qui change un peu dessus, allez lire Manchette, les chroniques. Thank you.
Bon, bah, jeudi noir sur 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, Radio Libertaire. Bon, on coupe le morceau là qui est un petit peu long, morceau de Pointe du Lac, du groupe Pointe du Lac. Ça s'appelait Purple Line, vous saurez pourquoi dans pas longtemps. Donc Pointe du Lac, c'est aussi une station de métro à Créteil. Donc d'ailleurs, une pensée pour Papy Marc, qui est décédé il y a quelques semaines, qui était animateur sur Radio Libertaire de l'émission Détruire l'ennui le dimanche soir, voilà. Et donc que vous avez sûrement croisé si vous alliez au concert Quepon Hardcore sur Paris. Hein. En général, il y avait quelqu'un derrière la sono et c'était souvent lui. Si vous avez fréquenté la miroiterie, par exemple, ou la Comédia, à l'époque où c'était pas un repère de sac à merde, voilà, et ce genre de lieu-là. Donc voilà, une pensée pour Papy, qui habitait Créteil, je crois, donc pas loin de Pointe du Lac, le lien. Allez, on va parler un peu littérature, avec un bouquin de Depa Anapara, qui s'appelle « Les disparus de la Purple Line ». Le morceau Purple Line, voilà. Donc c'est un bouquin paru en 2020 d'une autrice indienne qui est au départ journaliste plutôt spécialisée dans le social. Comment il dit sur TF1, chômage, immigration, banlieue. Voilà, donc non, c'est pas tout à fait ça, mais plutôt des sujets sur la pauvreté, l'enfance, voilà, une journaliste pas dans le frivole. Et elle a écrit un roman, donc Les disparus de la Purple Line, qui n'est pas de la SF étonnamment. Oui, je vais chroniquer autre chose que de la SF. On suit trois enfants, Jay, Paris et Faze. Donc, Faze, c'est d'ailleurs un enfant musulman, étonnamment, qui enquête sur la disparition d'autres enfants dans un bidonville. Des enfants disparaissent, on ne sait pas quoi. Et là, les enfants s'inquiètent de voir leurs copains et copines disparaître et vont mener une enquête. Voilà, au milieu de ce bidonville, ils vont même prendre le train sur cette Purple Line, qui est une ligne de train, métro, TER, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement là-bas, puisque la mégapole d'ailleurs n'est jamais citée, on ne sait pas si c'est Delhi ou Bangalore, je ne sais pas trop. Mais c'est l'occasion de faire un petit point sur cette ville-là, des gens les plus miséreux, les plus pauvres, dans ces banlieues indiennes, voilà, avec la police archi-corrompue, évidemment, qui vient soutirer les quelques sous que peuvent rassembler les pauvres pour une pseudo-protection, les magouilles des petits politiciens locaux, des responsables religieux locaux, le racisme anti-musulman qui est tout le temps présent. Donc on se retrouve avec une histoire qui est une sorte de club des cinq, bon, ils sont que trois, quoi, club des trois, mais version hyper, hyper dark. Hein. Au début, c'est un peu léger, ça devient très dur, voilà. Donc s'il y a vraiment des enfants enlevés, c'est méchant et tout ça. Donc une lecture que je vous conseille, Depa Anapara, Les disparus de la Purple Line.
It's all in the evening after dark, when the blackleg mane has the creep to walk, with her dirty trousers and the moleskin shorts, gan the dirty blackleg manas. Now they take their picks and doon they go, for to hew the coal that lies below. Aye, but there's never a woman in the Langtoon Row that would look at a blackleg manar. Dean gan near the Segil Main, for across the way the stretcher lane, to catch the throat and break the spine of the dirty blackleg manas. At Delaville, it's a terrible place, where they'll rub wet clay in a blackleg's face, and run about the heap, the run a foot race, for to catch the blackleg manas. Now they'll take your picks and your duds as well, and they'll hoy them doon the pit of hell. Aye, doon you gan and fare you well, you dirty blackleg manas. So it's join the union, well you may, devon't wait until your dying day. Aye, and that may not be far away, you dirty blackleg manas.
Bonsoir, vous écoutez donc Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Vous venez d'entendre un groupe célèbre de Angelic Upstart qui s'intitule Blackleg Miner. Et c'est un morceau qui est consacré évidemment à la grande grève des mineurs qui a eu lieu en Grande-Bretagne entre 1984 et 1985 et qui a été réprimé férocement par le gouvernement de Margaret Thatcher qui prévoyait cette grève et qui prévoyait sa répression depuis la fin des années 70 et qui donc a mobilisé des moyens légaux, des moyens policiers, voire des moyens militaires pour empêcher justement les mineurs de défendre leurs droits, disons. Et au début, je voulais vous parler donc d'un roman qui en parle. Ça a l'air d'être un auteur, David Peace, qui est assez connu. Il écrit pas mal de bouquins qui commencent toujours par une date, genre 1977 et tout et tout. Et en fait, en le feuilletant, en regardant de nouveau, je me suis dit qu'il y avait quand même un gros souci et que peut-être j'avais plus envie de le chroniquer. Mais tant qu'à faire, je vais le dire. Pourquoi ? Parce que, par exemple, il y a tout un truc sur la façon dont les services secrets infiltrent le mouvement des mineurs, donc une espèce de complot. Et vous avez un personnage récurrent qui, semble-t-il, est le conseiller de Margaret Thatcher et qui, dans le roman, est appelé le Juif. Alors, c'est un roman qui est publié chez Rivage Noir, dans une grosse maison d'édition française. Il est chroniqué par Télérama, qui a l'air d'en dire du bien. Et donc, ce qui est toujours gênant avec ce genre de truc, c'est qu'on a l'impression que finalement, même si l'auteur a très très bonnes intentions et même si il veut nous faire part d'un moment important de l'histoire ouvrière anglaise, il peut pas s'empêcher, à un moment ou un autre, de faire de la merde et de verser, quelles que soient ses opinions personnelles, hein, ça on les connaît pas et à la limite on s'en fiche, mais malgré tout, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'appeler le conseiller de Margaret Thatcher comme ça, le Juif ? C'est clairement un trope antisémite où vous avez une espèce d'état tentaculaire qui est contre le peuple avec une espèce de type qui va manigancer et qui s'appelle le Juif. Donc, je ne sais pas si je pourrais vous le conseiller, ce bouquin, rien qu'à cause de ça, en fait, parce que ça m'énerve. Mais bon, c'était aussi une façon d'intervenir peut-être dans certains débats actuels encore sur les intentions de l'auteur. Les auteurs et qu'est-ce qu'ils racontent en quelque sorte et qu'est-ce qu'ils donnent à voir ou à penser volontairement ou non.
Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4. On vient d'écouter quoi ? On vient d'écouter Swarm avec 3 R, un groupe japonais de 1999, le morceau, qui s'appelle Invisible Wall. Invisible Wall, en français, ça veut dire le mur invisible. Et devinez le titre du bouquin que j'ai chroniqué, le mur invisible. Voilà, donc c'est un bouquin pas du tout japonais, mais d'une autrice autrichienne qui s'appelle Marlène Haushofer, je ne suis pas très fort en accent autrichien, Haushofer. Donc, autrice 1920-1970, le bouquin date de 1963. et raconte l'histoire d'une femme, qui est la narratrice tout au long de l'ouvrage, qui se réveille un matin dans un pavillon de chasse, quelque part dans les Alpes ou dans les préalpes autrichiennes. On ne sait pas trop où, ce n'est pas très décrit. Les références à l'Autriche ne sont pas vraiment présentes. Dans un pavillon de chasse d'amis où elle a passé le week-end. Et là, elle se réveille, et tout le monde est parti. Il y a juste le chien qui est là. Ils sont partis parce qu'ils devaient aller chercher des gens, je ne sais pas où. Et elle va se balader pour voir si elle peut les retrouver. Et là, boum, elle se heurte à, je vous le donne en mille, un mur invisible. Voilà, donc elle est sous un dôme, un petit peu comme l'histoire de Stephen King, qui s'appelle Le Dôme, je crois. Voilà, donc un mur invisible. Et là, c'est son journal qu'elle écrit parce qu'elle trouve des bouts de papier, un bout de crayon. Elle va écrire tout petit pour essayer de chroniquer ces années qu'elle va passer sous ce dôme, à essayer de survivre. Avec surtout, ça parle de sa survie au quotidien, il y a un côté survival, mais aussi son rapport aux animaux. Alors ça va être le chien, ça va être des chats, ça va être une vache, deux vaches, des animaux sauvages, domestiques. Elle va penser à sa vie d'avant, ses filles, avec qui elle n'a pas forcément de très bons rapports et qui sont restées à l'extérieur. Elle se rend compte simplement aussi que les êtres humains qu'elle voit à travers cette barrière invisible ont l'air d'être endormis. Donc elle se rend compte que c'est pas forcément un incident nucléaire ou une guerre nucléaire qui a éclaté. Voilà, on sait pas trop, c'est jamais dit. Et je vais pas vous en dire beaucoup parce que on suit son journal comme ça au jour le jour avec plein de réflexions. C'est assez varié. En tout cas, c'est devenu une référence assez récente de l'écoféminisme apparemment dans le monde et en France en particulier. Ça a été réédité dans les années 2010, je crois. Alors l'écoféminisme, je ne vais pas vous en parler plus parce que vraiment j'y connais rien, mais c'est devenu une des références. Donc si ça vous intéresse et que vous ne connaissez pas Le Mur Invisible de Marlène Haushofer, voilà.
My name is Charles Dexter Ward. I am a man of singular taste. Exquisite sin is etched in my face. My name is Charles Dexter Ward. I suffer, I'm told, from a rare malady. I have declined to age gracefully.
Berter. On vient de faire une transition absolument géniale d'un point de vue technique avec José. J'ai appuyé sur un bouton pendant qu'il coupait la musique. Donc on est trop fort. Et donc si vous comprenez un minimum l'anglais, vous avez compris que j'allais parler de Lovecraft et de sa nouvelle la plus célèbre. Parce que régulièrement, je relis du Lovecraft. Alors, ce que je vous disais au sujet de l'auteur précédent, pour être appliqué à Lovecraft, après, bon, Lovecraft est écrit dans les années 20 et pas dans les années 2000. Donc, il a une espèce de, je dirais, pas de passe-droit, mais bon, disons que lire du Lovecraft, pour moi, c'est un petit peu comme regarder des vieux films d'horreur des années 30, 40, 50, où, d'une certaine manière, vous avez les basiques un petit peu actuels, mais juste en plus lent. Et comme on connaît tous les codes, on voit tout venir à 200 km. Et en même temps, c'est quand même fait avec comment dire, avec un certain soin. Et ça reste des choses qui sont, je trouve, toujours intéressantes à lire. Et avec toujours le côté un petit peu rigolo, on a le majordome qui va être terrorisé par un regard. Voilà, qui a un regard qui semble fou et vicieux. Et alors le majordome présente immédiatement sa démission, parce que ce regard, non, là, c'était trop. Hein. donc parfois on se demande un petit peu, on se dit tout ça pour ça, et on imagine qu'il y a un monstre absolument ineffable et tout, et puis finalement il ressemble à un crapaud. Parce que, quoi qu'on en dise aussi, Lovecraft a décrit ces monstres. En général, ils ont des tentacules, ils ressemblent à des crapauds. Voilà, ils ont une peau squameuse, ils ont toutes deux ou trois bricoles. Alors, donc voilà, c'est plutôt une espèce de... Lire Lovecraft, c'est plutôt une espèce de visite au musée. Mais c'est pas forcément une visite au musée qui est toujours entièrement désagréable. Donc voilà, si vous savez à quoi vous en tenir sur le reste, hein, parce que bon, les méchants sont forcément métis, ou noirs, ou arabes. Il est horriblement raciste, antisémite et sexiste aussi. Alors les femmes n'apparaissent absolument pas, si ce n'est comme des pauvres êtres qu'il faut protéger. Et encore, même là, elles sont rares. Donc bon, c'est une pièce de musée, quoi. Voilà.
Il y a 10 000 ans, nous étions les mêmes. Nous empruntions la route de l'eau. Le bateau est grand pour l'amour, je ne te dis pas. Et les vagues annoncent les croisières où tu gouvernes mon corps. Qui a dit que le naufrage n'appartenait qu'aux marins?
History repeating, thinking what you're being, being what you're feeling, and feeling like you're healing the past. At last, map without a compass, compass. We listen to the winds, we sailing on the waves. Hooray for first phase, we thirsty. We gather in the stocks, igniting with the rocks. Subtly we call this land our birthplace.
Cherche une note. Cab moudé d'ordi mnashkot. Herh pedmout. Chegwane wawi de mer. Herh pedmout. Taneh mudeh. Hob de mut. Chichi.
Réveillera la mémoire. Oui, Jeudi Noir sur Radio Libertaire. Bon, désolé, j'ai encore coupé ce morceau, mais il dure trop longtemps pour le peu de temps qui nous reste. Vous pourrez le réécouter en entier avec sur le site Jeudi Noir sur gurdulu.org, il y aura toutes les références. Voilà, c'était un morceau de Natacha Canapé-Fontaine.
Camoulox.
Featuring Random Recipe, voilà, qui s'appelle Tiao Tiake. Donc Natacha Canapé-Fontaine, c'est une artiste, écrivaine, slameuse, plein de choses, je ne sais pas quoi exactement, mais elle a participé entre autres au premier recueil de nouvelles d'anticipation d'autochtones du Québec, dont je vais vous parler, qui s'appelle WAPKE. Alors WAPKE, W-A-P-K-E, ça veut dire futur en langue atikamekw. Je ne sais pas si je prononce bien. Donc, c'est un recueil de 14 nouvelles de plein d'auteurs et d'autrices que je ne connais pas du tout. Hein, que des auteurs, autrices autochtones du Québec. Je ne sais pas, je vais citer Janice Ottawa, Elisapi Isaac, Katia Bacon, Isabelle Picard. Voilà, je ne connais vraiment aucune autrice. Qui ne sont pas forcément des écrivains, écrivaines professionnelles. Parfois, on leur a demandé, c'est une commande, hein, d'écrire sur... de l'anticipation sur un futur du Québec post-apocalyptique, surtout post-épidémique. Voilà, ça date de 2021, la publication, ça peut vous dire quelque chose. Et donc, on a tout un tas de nouvelles qui sont plutôt, dans l'ensemble, sur le côté survivaliste, avec plein de références aux problèmes vécus actuellement par les peuples autochtones au Québec. Et la plupart des auteurs-autrices présentent justement les personnages autochtones comme plus aptes à survivre en cas de catastrophe. Voilà. Donc des nouvelles plus ou moins optimistes, en tout cas, de qualité plus ou moins, voilà, assez inégale. Hein, on sent qu'il y a des écrivains, écrivaines qui ont de l'expérience et d'autres non, mais en tout cas un petit bouquin assez sympathique à lire. Donc ça s'appelle WAPKE, premier recueil de nouvelles d'anticipation d'autochtones du Québec.
وليك فان ذقيل سنسان وردي قران لمن يذسان أحمد الحسين مثافقن عذر لهنا سيريان ولي يكفى ذيك السنسن وردي قران لا من ينسن أحمد الحسين مثافقن عذر لهنا سيريان يزادد الفكر يقلب دويسين وكذا يذكر يميز الحسين يزادد الفكر يقلب دويسين وكذا يذكر سلوة بوجيلين يجلل سيلة مصيين السيدي كبر سلوة بوجيلين يجلل سيلة مصيين السيدي كبر ولي
Je sais, il a beaucoup de qualité, mais il a un gros défaut, c'est moi, et on a beaucoup de mal à préparer nos émissions. Donc là, on a dû interrompre le morceau de Lounès Matoub, qui intitule Les deux compères, pour avoir le temps de finir nos chroniques. Donc, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est Jeudi Noir qui se poursuit, et je vais vous parler d'un classique, c'est un petit peu ma marque de fabrique. Donc là, je voudrais vous dire deux mots d'un classique qui s'appelle de Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Parce que souvent, bon, quand on parle de Flaubert, on parle de Bovary, qui est très très bien, ou d'éducation sentimentale, c'est aussi très très bien. Mais si vous voulez rire, alors il faut ça, un sens de l'humour un peu particulier, il faut aimer les choses pas forcément drôles, disons. ben, vous pouvez lire Bouvard et Pécuchet, parce que c'est l'histoire de deux idiots qui vont en quelque sorte chercher à devenir moins idiots, qui vont dans une certaine mesure y parvenir, et qui à la fin du roman vont être assaillis par l'idiotie du monde lui-même, et tout au long de leur histoire, ils se retirent à la campagne, dans une maison, et ils étudient. Ils étudient, et à chaque fois, c'est des échecs absolument invraisemblables. Et donc, on les voit au milieu de ces notables de province qui ne savent pas trop quoi faire d'eux non plus. Accumuler les échecs, finalement, accumuler les frustrations. Et ils finissent par se contenter de compiler les idioties du temps, ce qui va s'appeler le dictionnaire des idées reçues, que Flaubert lui-même, en quelque sorte, rédigeait. Et donc, voilà, tout un tas de... un tas de perles de, entre guillemets, de la sagesse entre guillemets, de l'époque. Alors, c'est, comment dire, c'est du Flaubert qui est un peu particulier. Vous n'avez pas de trop longues descriptions. Les phrases sont assez sèches, c'est assez court. Ça va à l'essentiel. C'est un peu un style comique. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette espèce de révélation à de sa propre bêtise à l'esprit.
Like a judgment night, judgment night, judgment night. And I'm a common good joke. Loro discendono dai serpenti, sono in pochi a controllare i tanti. Hanno inventato Dio con tante, gli impicci, la mafia, le banche. Ok, si tratta di salvare il salvabile con consapevolezza. Il soldo non può essere il target di un'intera esistenza. MCs, elevate il livello di coscienza, stabilite in partenza. Se guardare la realtà col filtro imposto senza, sarà come seguire il capo oppure resistenza. Se potete abbiate chiaro in mente chi siete, da dove venite, dove andate. Ogni volta che dimenticate ripercorrete stesso giro di vuote. Si apputanate, basta, bling bling gangsta. Domani i media avranno un'altra rap star. Te che resta la macchina, la grande fama. Specchio, specchio delle mie brame. Vai mo e digli che redere a me. Vanitoso, poco serio, infame. Bla 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 bla, altro che rime. Io non vaneggio, l'hip hop non è morto, è riassemblaggio. Guardo la realtà, non il tuo miraggio. Tu che ami armato un grece e pagliaccio. Sopravviveranno kings e queens. Avanti ore con coraggio. Io non vaneggio, l'hip hop non è morto, è riassemblaggio. Guardo la realtà, non il tuo miraggio. Tu che ami armato un grece e pagliaccio. Sopravviveranno kings e queens. Avanti ore con coraggio. Terza luna di agosto, sette giri intorno a un magico cerchio di sassi in uno spettacolare posto. L'acqua del fiume tra i sassi produce un rumore sempre più tosto. Battito lento e occhi chiusi mentre attendo la risposta. Aggiunge a breve.
Oh là là, on coupe tous les morceaux, là, c'est pas possible, bah ouais, on est en retard. Hip-hop Noé Morto, c'était Malesa, une rappeuse italienne, avec Discendono dai Serpenti, je pense que ça veut dire nous descendons des serpents, je pense que ça veut dire ça, j'ai pas vérifié sur Reverso. Parce que je vais vous présenter un bouquin de Andrus Kivirak, qui s'appelle L'homme qui savait la langue des serpents. Il n'est pas italien, Kivirak, il est estonien. Né en 70, pour vous situer, là le bouquin il date de 2007. Et L'homme qui savait la langue des serpents, ça se passe dans une Estonie médiévale fantastique, un peu fantasmée. Et on suit le parcours d'un jeune garçon avec sa famille qui vivent dans une forêt estonienne. Beaucoup de ces gens qui vivent dans cette grande forêt sont tentés par la civilisation. Il y a l'agriculture qui se met en place à côté. Il y a le goût du pain qui les attire beaucoup. Il y a les chrétiens qui sont assez curieux. Et puis les hommes en fer, là, en métal, donc des chevaliers qui sont très bizarres. Comment est-ce qu'ils peuvent marcher alors qu'ils sont tout en métal? C'est un bouquin. J'ai eu vraiment peur que ce soit un bouquin nationaliste. Le petit truc que j'avais lu qui présentait, c'était un peu sur les origines de l'Estonie. Et en fait, non, ça se fout vraiment de la gueule du nationalisme estonien, puisqu'on a plein de personnages qui font un peu la course à la pureté des origines estoniennes. Et donc, c'est à celui qui remontera le plus loin dans le temps pour dire que non, avant c'était mieux, avant c'était mieux, avant c'était comme ça. Toi, t'es vraiment un super moderniste, tu utilises une cuillère, enfin ce genre de choses-là. Voilà, donc on a une pelletée de personnages complètement invraisemblables, des fanatiques religieux, des chrétiens qui sont un autre style de fanatisme également. On a des poux de taille inhabituelle, on a des ours séducteurs de femmes, on a des papis volants. C'est plein d'aventures dans tous les sens, c'est hyper drôle, c'est complètement épique, ça part dans des directions auxquelles on ne s'attend pas. Tout au long du roman, on est surpris. C'est drôle, c'est frais, c'est super profond. Ça parle de tradition, de pureté, de fantasmes nationalistes et de plein d'autres petites choses. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à l'écriture d'Italo Calvino, qui est à la fois très riche et à la fois sous forme de conte hyper agréable à lire. Voilà, donc c'était Andrus Kivirak, un des bouquins que j'ai préféré de ces dernières années, L'homme qui savait la langue des serpents. Et on vous quitte avec No Means No, parce qu'on est obligé, puis on se revoit en 2023.
C'est le meilleur groupe du monde.
Have you heard the news? The dead walk. How do you hide from something you have found?